Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène-Delforge, chaire religion, histoire et société dans le monde grec antique.
Bonjour à tous et à toutes, ça va? C'est un nouveau micro, donc on va voir. On va voir, il paraît qu'il est plus performant, donc... Bien, alors, programme, donc, nous avons hier la première séance du séminaire... Donc la prochaine aura lieu dans 15 jours, mais là, bon, nous sommes dans le cadre du cours. Et donc, je vous rappelle que la semaine dernière, et je suis contente de ne pas vous avoir découragé, la semaine dernière, j'ai lu et analysé avec vous la partie de la rhétorique d'Alexandre qui concerne les cultes, à savoir l'accomplissement des sacrifices, puisqu'il était clair que quand on parlait de hiera, de culte, c'était de sacrifices... C'était de sacrifices qu'il s'agissait. L'intérêt, je l'ai dit, des conseils dispensés par l'apprenti, à l'apprenti orateur, qui est le destinataire de cette œuvre, dont je vous rappelle qu'elle date du dernier tiers du IVe siècle avant notre ère. Donc l'intérêt, évidemment pour nous, réside dans l'objectif de persuader une assemblée civique dans le traitement donc, des hieras, des affaires de Dieu, dont, que vous voyez là, que je traduis ici par culte. Dans cet usage-là, c'est tout à fait pertinent. L'exigence de persuasion, puisque la rhétorique c'est ça, c'est une démarche de persuasion, l'exigence de persuasion qui traverse le traité implique de faire écho à une attente potentielle du public cible. Il faut qu'il y ait, je dirais, une réception des arguments par un public. En d'autres termes, la marge de manœuvre de l'orateur est limitée par ce que j'appellerais le contrôle de l'auditoire et la compétence culturelle que l'auditoire va mobiliser au moment où il accueille le discours de l'orateur. Cela signifie dès lors, et c'est pour cela que j'ai ouvert le cours de cette année sur cette œuvre, cela signifie qu'en matière de culte et de sacrifice, comme en tout autre, donc les arguments résonnent avec l'expérience de ceux qui les reçoivent. Et cette résonance confère à ces propos, évidemment, un grand intérêt pour nous, qui ne sont plus en mesure d'exercer cette compétence culturelle, puisqu'elle n'est pas la nôtre. Je vous rappelle aussi les trois mots clés qui ressortaient du traitement rhétorique de la question des cultes. La tradition, à savoir le rapport au père de la cité, la piété, à savoir le rapport au dieu de la cité, et l'économie, à savoir les moyens, la question des moyens financiers que la cité est en mesure de mobiliser pour affronter ses obligations religieuses. Ce dernier élément, l'économie, évidemment, plus que les deux autres, est une variable d'ajustement quand il s'agit d'augmenter ou de diminuer la part des cultes. Nous avons vu cela la semaine dernière, je n'y reviens pas. Quant à la tradition et la piété, elles peuvent être éclairées de façon contrastée en fonction des besoins de l'argumentation. Vous vous souviendrez que si la tradition des ancêtres est évidemment un idéal qu'il faut respecter autant que possible, la conscience que les ancêtres eux-mêmes, les pères de la cité, avaient pu faire bouger les lignes en leur temps, permet de justifier aussi les changements. Donc si la tradition est un affichage global, le respect de la tradition, on voit bien que... Les changements sont possibles dans une certaine mesure. Quant à la piété, ces signes extérieurs ne disent pas forcément tout de la sincérité d'une démarche. Et c'est évidemment la sincérité de la démarche qui est évoquée quand il s'agit de justifier que l'on doive couper dans les moyens. Vous vous souviendrez de cette expression « kata dynamine » selon ses moyens qui est récurrente, notamment en ce qui concerne les sacrifices des particuliers. Après ce bref rappel, donc, vous dire que les dossiers que je vais aborder cette semaine vont mettre à l'épreuve ce rapport à la tradition et à la piété dans le cadre concret de la vie athénienne et non plus seulement dans le registre de la rhétorique. D'où le titre que je donne à la leçon d'aujourd'hui, donc Tradition et piété à l'épreuve des événements, Athènes 415 et 403. Donc, vous le voyez, nous restons à Athènes, mais en remontant quelque peu le temps par rapport à la période où a été rédigé le traité de rhétorique que nous avons analysé la semaine dernière. Nous allons donc parcourir la période qui va de 415 à 403, et même jusqu'à 399, à savoir la dernière phase de la guerre du Péloponnèse, qui est particulièrement intéressante pour penser la Grèce comme culture sacrifiante à l'échelle de la cité, puisque c'est ça mon sujet de l'année. En effet, en une dizaine d'années, un peu plus, Athènes va traverser d'importantes crises liées à la guerre et changer plusieurs fois de régime politique. Alors, pour ceux qui le connaissent, le titre de ma leçon est évidemment un clin d'œil au beau livre de mes collègues Vincent Azoulay et Paulin Ismar, donc intitulé « Athènes 403, une histoire chorale ». Mon histoire ne sera toutefois pas chorale, mais sacrifiante. Et je reviendrai sur ce point à la toute fin de ma leçon. Partons dès lors de l'année 415. 415 avant notre ère, les Athéniens ont envoyé en Sicile, à l'instigation d'Alcibiade, une expédition démesurée qui s'est soldée par un échec cuisant. Des milliers de soldats sont morts, une bonne partie de la flotte a été détruite. Or, peu avant le départ de la flotte, une nuit du printemps 415, des dizaines de monuments, et pas n'importe lesquels, vous allez le voir, ont été détériorés dans la cité. Et c'est évidemment notre source principale pour la guerre du Péloponnèse, à savoir Thucydide, qui nous en a gardé le souvenir. Je lis la traduction avec vous. Donc le contexte, c'est l'armement de la flotte pour le départ en Sicile. Il arriva que les Hermès de marbre qui se trouvaient dans la cité d'Athènes, on connaît ces blocs taillés quadrangulaires que l'usage du pays a répandus aussi bien dans les demeures devant les demeures particulières que devant les sanctuaires. Donc ces Hermès furent pour la plupart une nuit mutilés sur leur face. Nul ne connaissait les coupables. L'affaire prenait dans l'opinion une grosse importance. Elle paraissait constituer un présage, en l'occurrence un mauvais présage, pour l'expédition, en même temps qu'appuyer un complot visant à faire une révolution et à renverser la démocratie. Et le texte se poursuit. Là-dessus, une dénonciation venue de métèques et de gens de service, sans rien révéler au sujet des Hermès, apprend qu'il y avait eu précédemment d'autres mutilations de statues du fait de jeunes gens qui s'amusaient et avaient bu, et que, de plus, dans quelques demeures privées, on parodiait outrageusement les mystères, donc la grande célébration pour Déméter et Corée. Ces accusations atteignaient en outre Alcibiade. C'est en fait la mutilation des piliers qui m'intéresse ici, donc dans le paragraphe 27, non, chapitre 27 du livre 6 de Thucydide. En fait, les piliers hermaïques sont des artefacts qui se sont multipliés dans la cité athénienne à partir de la fin du VIe siècle. Donc, quand tout ceci se passe, il y a déjà un siècle qui s'est passé depuis la mise en place de ces artefacts. Et vous le voyez dans le texte de Thucydide, il s'agit d'une habitude locale, hein, vous voyez le terme épicurienne, d'une habitude locale d'ériger des tétragones sculptés à l'entrée des maisons et des sanctuaires. Si ces objets reçoivent le nom d'Hermès, c'est qu'ils sont explicitement associés aux dieux ainsi dénommés. Or, c'est une attitude, une habitude bien ancrée en Grèce ancienne de désigner une statue divine par le nom du dieu qu'elle représente. Donc ça, ce n'est pas une curiosité, je dirais, mais dans le cas présent, c'est exceptionnel car le nom propre du dieu est en quelque sorte devenu le nom commun de la forme statuaire elle-même. Donc il y a là une sorte d'extension de la dénomination qui est particulière dans le cas d'Hermès. Alors ce type statuaire, en voici un exemple qui a été retrouvé à Sifnos, mais qui date de la fin du VIe siècle. Ce type statuaire, comme vous le voyez, est composé d'un pilier surmonté d'une tête barbue, avec deux tenons à hauteur des épaules. Bon, là, celui qui est sur la gauche est abîmé, mais on voit clairement l'ancrage de celui de droite. Avec donc un phallus érigé à mi-hauteur sur la face antérieure. Certains, mais je n'en ai pas d'image, portent la représentation d'un caducé sur le côté, hein, attestant finalement qu'il s'agit bien d'un Hermès, donc c'est une sorte d'attribut, hein, du dieu ainsi évoqué. Et pour mon propos qui est centré sur le sacrifice, il est important de comprendre la place de ces objets dans la cité athénienne. Les débuts, en fait, de cet usage local, comme l'appelle Thucydide, les débuts de cet usage remontent, en fait, à l'initiative conjointe d'Hipparque, qui était un des deux fils du tyran Pisistrate, et d'un autre Pisistrate, qui était le petit-fils du premier. Et je commence par l'initiative de Pisistrate le Jeune. En 522, bien sûr, avant notre ère, Pisistrate le Jeune dédie sur l'Agora un autel aux 12 dieux. Et vous avez la localisation ici de l'autel en question sur l'Agora d'Athènes. Groupe des 12 dieux dont je vous ai déjà plusieurs fois parlé, notamment l'année dernière, à propos, souvenez-vous, de l'opération sacrificielle qu'accomplissait Hermès, justement, dans l'hymne homérique qui lui est dédié. C'est un collectif donc de divinités qui est bien attesté à la même période à Olympie et à Délos, donc le groupe des 12, qui forme, alors ça peut paraître paradoxal, mais vous savez qu'en contexte polythéiste, on n'est pas à un paradoxe près, c'est en fait une unité plurielle, ce groupe des 12 dieux, avec une tension typique des configurations polythéistes où le tout n'est jamais simplement la somme de ses parties. Il y a quelque chose de plus dans cette organicité. Et c'est là qu'intervient à Athènes l'initiative d'Hipparque par rapport à cet autel. Hipparque, qui est donc le fils de Pisistrate l'Ancien. Dans le cadre d'un programme édilitaire plus vaste, il établit dans le sol de l'Attique, mesuré à partir de cet autel, donc vous voyez une reconstitution qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, ça donne un petit peu de corps à des restes archéologiques qui sont parfois peu parlants. Donc Hipparque établissait dans le sol de l'Attique, au départ de cet autel des 12 dieux, des piliers hermaïques comme autant de bornes miliaires. Si l'on en croit le dialogue pseudo-platonicien qui concerne précisément Hipparque, les piliers étaient placés à mi-chemin entre l'autel des 12 dieux et les différentes localités de l'Attique, de la région. Et ce témoignage du dialogue pseudo-platonicien a été confirmé quand on a mis au jour un de ces piliers, malheureusement très, très mutilé, mais il reste l'inscription qui est précieuse pour nous, puisqu'on voit, donc vous voyez, ici on est vraiment dans la période des premiers moments de l'érection de ce type de monument. Et donc, vous avez ici l'inscription qui dit « À mi-chemin entre Képhalè et la ville, donc c'est-à-dire la stue, le centre-ville, ce brillant Hermès. » Donc, vous avez là une confirmation dans la matérialité d'un objet de ce que le dialogue pseudo-platonicien nous dit. Alors, la partie manquante de ce pilier, si l'on en croit le pseudo-Platon, devait porter l'indication qu'il s'agissait d'un monument d'Hipparque, avec des maximes moralisantes du type « tiens-toi dans des pensées justes »,« ne trompe pas ton ami », etc. Donc il y avait une sorte de pédagogie moralisante que transportait aussi ce type d'objet. Et donc vous avez, sur le territoire de l'Attique, donc voilà Képhalè qui est mentionné sur le pilier, il a été trouvé, vous le voyez peut-être là, à Koropi, Alors, si vous êtes familier du métro qui va de l'aéroport d'Athènes à Athènes, c'est la première station. La première station, c'est Koropi. Et donc, on est quelque part par ici, ce qui correspond assez bien à la distance médiane entre Képhalè et le centre-ville. Donc vous avez un maillage du territoire. Alors évidemment ici, c'est une représentation qui est un tout petit peu anachronique pour la toute fin du VIe siècle, puisque ce sont les dèmes de la période classique, donc après la réforme de Clisthène, mais néanmoins ça donne une idée du maillage potentiel de ce type de monument. Et donc vous avez un maillage qui est assuré par autant d'évocations du dieu Hermès au départ de l'autel des 12 dieux sur l'Agora. Donc les piliers n'étaient pas de simples panneaux indicateurs, si vous me permettez cette analogie, mais l'actualisation particulière d'une figure divine. Alors je dis particulière parce qu'effectivement l'iconographie est évidemment pas tout à fait celle d'un anthropomorphisme qui nous est plus habituel pour les dieux grecs. La tête et le phallus sont anthropomorphes, effectivement, mais vous avez un corps pilier qui n'a pas de bras, qui n'a pas de jambes, et qui casse le code de la figuration humaine. Alors même le phallus, d'ailleurs, même s'il peut être conçu comme anthropomorphe, ou en tout cas comme andromorphe, est une curiosité dans ce type iconographique, car l'ithyphallisme n'entre pas véritablement dans les motifs figuratifs des dieux grecs, hormis dans le cas exceptionnel mais assez limité du dieu Priape, le petit dieu des jardins avec un phallus disproportionné. Même Dionysos, dont certaines célébrations sont associées notamment au transport de phalloï, Dionysos n'est pas représenté dans cette disposition particulière sexuellement explicite. Et quand on y réfléchit bien, d'ailleurs, pour Hermès, c'est aussi particulier, parce que ce n'est que sous la forme du pilier qu'il porte ce type d'attribut. Quand il est représenté par ailleurs dans un anthropomorphisme habituel, il n'est évidemment jamais dans cette posture ithyphallique. Bon, c'est une question que je laisse de côté, car elle m'emmènerait là où je ne veux pas nécessairement aller aujourd'hui, mais je n'exclus pas de revenir sur ce type de problématique dans une autre série de cours, je verrai. Mais en tout cas, on voit bien ici, on a affaire à une forme iconographique particulière. Néanmoins, en dépit de ces particularités, cet Hermès est un agalma. Agalma, c'est-à-dire une offrande qui réjouit le dieu, puis qui plus tard devient le terme reçu pour dire la statue divine. Donc c'est un agalma, une évocation du dieu qu'il est censé honorer, cet objet. Comme toute figuration de ce type, quand il s'agit de dieu, cet objet sert d'interface, si vous voulez, entre le visible et l'invisible, entre le monde humain et le monde suprahumain. Or, il faut bien dire, et c'est ça qui m'intéresse, et c'est ce point que je vais creuser avec vous, ce rôle d'interface est encore accentué quand il s'agit du dieu Hermès. Il est par excellence la puissance divine des passages, des échanges, des contacts et du franchissement des limites, quelles qu'elles soient. Dès l'épopée homérique, Hermès, c'est le messager de Zeus. C'est le messager de Zeus qui se mêle aux hommes alors que le roi de l'Olympe reste sur son Olympe, dans une position de surplomb ou sur les hauteurs de la plaine de Troie, mais il ne se mêle pas aux hommes. Tandis qu'Hermès, lui, il amène les messages, il porte les messages. Et l'an dernier, quand je vous ai parlé de l'hymne homérique à Hermès, ceux qui étaient là s'en souviendront, j'espère, j'ai souligné combien cet hymne construisait la figure d'Hermès, construisait les compétences qui étaient les siennes, avec une revendication très forte des privilèges qu'il réclamait. Et parmi ces privilèges, l'échange, le passage est évidemment tout à fait présent, mais aussi, souvenez-vous, la capacité à franchir même la limite de l'au-delà, ce que d'habitude les dieux ne font pas. Et quand dans l'hymne homérique à Déméter, Zeus, pour que l'humanité ne meurt pas de faim, consent à rendre Perséphone à sa mère, qui va la chercher dans les enfers, c'est évidemment Hermès. Lui seul est habilité à passer cette frontière qui normalement est infranchissable. Donc il a vraiment ce profil de passeur. Et sur l'arrière-plan des sacrifices, parce que je n'ai pas oublié que je vous parle de sacrifices, sur l'arrière-plan des sacrifices qui m'intéressent, une tradition narrative est tout particulièrement suggestive. Alors elle est un peu tardive, vous allez voir, puisque elle se trouve chez le pseudo-Apollodore, donc dans une sorte de manuel de mythographie, écrit sans doute 2e, 3e siècle de notre ère, par un auteur anonyme, mais dont on a cru pendant un moment qu'il s'agissait d'Apollodore d'Athènes, un auteur de la période hellénistique, puis il s'est avéré pour des tas de raisons que je ne précise pas ici que ce n'était guère possible, et donc on a gardé le nom d'Apollodore parce que c'est plus simple, mais c'est donc le pseudo-Apollodore dans la bibliothèque, dans ce manuel appelé la bibliothèque. Et cet auteur construit une habile synthèse de toute une série de traditions narratives qui ont cours dans le monde grec, et il parle notamment de Prométhée, de son frère Épiméthée, qui ont chacun un enfant, Deucalion et Pyrrha. Deucalion pour Prométhée et Pyrrha pour Épiméthée. Et c'est à ce moment-là, nous dit le pseudo-Apollodore, que Zeus décide de détruire les hommes du Génos d'argent. Vous vous souviendrez de ce récit des cinq espèces humaines les travaux et les jours d'Hésiode, où effectivement il y a toute une série d'espèces humaines associées à des métaux qui sont finalement détruites. Et celle du Génos d'argent, donc ici vous avez le pseudo-Apollodore qui mélange toute une série de traditions différentes. En fait, cet auteur va associer la destruction du Génos d'argent non pas un enfouissement pur et simple comme dans le cas d'Hésiode, mais bien au motif du déluge. Et à ce moment-là, donc, pour détruire l'humanité, en l'occurrence, nous dit le pseudo-Apollodore, Zeus fait pleuvoir pendant des jours et des nuits. Prométhée conseille à Deucalion et à Pyrrha de monter à bord d'une espèce de coffret qui leur permet d'être sauvés des eaux. Et une fois que la pluie s'est arrêtée, l'humanité a été détruite, il reste Deucalion et Pyrrha. Et que nous dit à ce moment-là le pseudo-Apollodore? La pluie ayant cessé, il, donc Deucalion, sortit du coffre et sacrifia à Zeus Phixios. Phixios, c'est le Zeus des exilés, en fait, ce qui va assez bien en l'occurrence. Zeus, lui, donc il fait un sacrifice. Mais souvenez-vous, dans sur l'arrière-plan hésiodique, donc les conditions de possibilité du sacrifice ont été dessinées par Prométhée. Bon. Et donc le pseudo-Apollodore, il mélange toutes ces données. Donc ici, Deucalion offre un sacrifice, et à ce moment-là, Zeus lui envoie Hermès. Zeus lui envoie Hermès pour lui demander ce qu'il veut. Je vais y revenir. Deucalion souhaite repeupler la terre avec des humains, et donc, sur ordre de Zeus, l'un et l'autre, Deucalion et Pyrrha, prennent des pierres. Celles que jette Deucalion font naître des hommes, celles que jette Pyrrha, au-dessus de son épaule, font naître des femmes. Et donc, vous voyez ici, cet épisode, certes tardivement attesté, puisqu'on est au 2e, 3e siècle de notre ère, mais on voit qu'il privilégie le motif du déluge pour exprimer la distance qui se creuse entre les hommes et les dieux, alors que chez Hésiode, c'était le partage du bœuf qui créait cette distance. Mais de part et d'autre, dans des contextes tout à fait différents, tout à fait différent, dans une œuvre de mythographie et une poésie archaïque, ce qui est quand même pas la même chose, on voit que le sacrifice est l'outil de communication. Il est l'outil de communication entre des sphères désormais séparées. Or, c'est précisément cette distance que le parcours d'Hermès va permettre de traduire et de combler temporairement. Et comme l'avait déjà remarqué Jean Rudart dans un article de 1970, chez le pseudo-Apollodore, la distance est désormais la règle et Hermès fait la jonction entre le sacrifiant et le destinataire du sacrifice, en tant précisément que dieu des passages et des transitions. Depuis l'Iliade, je l'ai rappelé tout à l'heure, il est le porteur des messages, mais on voit ici que ces messages sont susceptibles d'être à double sens, des hommes vers les dieux vers les hommes. En conséquence, le choix du pilier hermaïque par Hipparque pour marquer le territoire de l'Attique est tout sauf fortuit. Le dieu ainsi éparpillé dans toute la région assume des passages horizontaux entre le centre-ville et la région, le territoire qui entoure la cité. Il est donc à la jonction entre la cité et la campagne. Je vous rappelle en outre que Athènes s'est construite sur un synécisme, c'est-à-dire le rassemblement de communautés initialement indépendantes dans une cité unifiée. Et c'est donc dans la tradition athénienne le roi Thésée qui aurait procédé à cette unification. Alors la datation haute que cette association à Thésée pourrait induire a récemment été beaucoup interrogée et remise en question. Il est probable que tout cela s'est fait non pas d'un seul coup mais sur une certaine durée, et que l'unité proprement politique de l'ensemble de l'Attique n'a été finalement finalisée qu'au VIe siècle, donc peu avant l'initiative d'Hipparque. Mais quoi qu'il en soit de ce point de chronologie, donc Hermès fait ainsi le lien entre le centre-ville et le territoire avec l'autel des 12 dieux comme point central d'un mouvement qui est à la fois centrifuge et centripède, puisque le pilier, il indique évidemment le mi-chemin dans les deux sens, pour celui qui va du territoire dans la cité ou inversement. Donc vous avez ce mouvement centrifuge et centripède. N'oublions pas cependant, parce que là je vous parle de l'horizontalité du territoire, n'oublions pas qu'Hermès aussi est le passeur vertical. On vient de le voir chez le pseudo-Apollodore. Je viens de le rappeler pour ce qui concernait l'hymnomérique à Déméter. Il crée les liens dans la profondeur du cosmos lui-même, entre les vivants mortels et les vivants immortels. Et je pense que c'est ce que dit aussi le choix du kilomètre zéro, si vous me permettez cette expression, pour l'autel des 12 dieux. Il symbolise, donc Hermès, le lien de toutes les communautés de l'Attique aussi au monde des dieux qui est en quelque sorte synthétisé dans le fameux autel des 12 dieux, cette unité plurielle, cette synthèse du monde divin. Donc à l'horizontalité du déploiement des piliers qui expriment l'unité du territoire et les passages possibles à l'intérieur de lui, répond, je pense, la verticalité symbolique entre les Athéniens, enfin de la relation, pardon, la verticalité de la relation entre les Athéniens et leurs dieux. Toutefois, me direz-vous peut-être, si vous avez été attentif, et je ne vous menace de rien en vous disant ça, ce ne sont pas ces piliers hermaïques des espaces ruraux qui ont été dégradés en 415. Si on lit Thucydide, il parle de leur situation à l'entrée des maisons particulières et des sanctuaires. J'ai remis le passage en grâce. En fait, entre l'initiative d'Hipparque, entre 522 et 514, grosso modo, et la mutilation du printemps 415, un siècle s'était écoulé et le succès du type statuaire avait mené à sa multiplication dans la cité, voire au-delà. Les piliers, en fait, en dépit de leur origine tyrannique, puisque c'est quand même une initiative d'Hipparque, n'avaient pas été détruits, n'avaient pas été emportés dans le mouvement qui avait abattu la tyrannie des Pisistratides. C'était des objets, maintenant, qui étaient associés à Hermès et qui ont été largement adoptés par la cité du Ve siècle, après la réforme associée à Clisthène. Ils peuplaient véritablement la ville, faisaient partie du paysage, entendu à la fois comme cité-ville, centre urbain et territoire. Les piliers étaient particulièrement nombreux sur l'agora. Épigraphiquement, on sait qu'il existait un portique des Hermès, par exemple. Ils étaient virtuellement partout, au point de passage, devant les maisons, aux portes, dans les lieux de sociabilité. Donc, le pilier hermaïque, de ce point de vue, est un véritable marqueur d'espace. Marqueur d'espace qui s'est imposé pendant tout le siècle qui a suivi sa mise en place à l'initiative d'Hipparque. C'est donc une référence très familière au sein de la cité. Et à l'échelle domestique, on sait aussi qu'il y avait une sorte d'affection pour ces piliers auxquels on faisait des offrandes modestes. Et en fait, de la popularité et de la familiarité du motif de l'Hermès, la peinture de vase est un témoin particulièrement significatif. Et donc je vais ouvrir maintenant ce volet iconographique. En effet, le pilier hermaïque est un motif récurrent sur les vases qui servaient, enfin sur la vaisselle décorée qui servait au banquet des citoyens. C'est d'ailleurs un objet de ce type, vous l'aurez peut-être remarqué, qui se trouve représenté sur le cratère à colonnes que j'ai choisi pour l'affiche annonçant les cours de cette année. Voilà, vous voyez ici la correspondance picturale de cet objet dont je vous parle maintenant depuis le début de ce cours. C'est un objet donc très très commun et il y a toute une série de contextes où le pilier peut être représenté sur les vases. Vous voyez ici, vous avez une scène de chasse à l'homme par une espèce de dieu Pan là, dont l'érection correspond évidemment à celle du pilier, mais vous voyez qu'on est ici dans un contexte campagnard. Vous avez ici un autre vase où vous avez ce pilier, et là vous avez en fait une femme qui va pêcher, parce que de l'autre côté du vase que je n'ai pas mis, on voit une scène de pêche. Voilà encore ici le voyageur, qui est significatif par son manteau, enfin dont les attributs sont significatifs de son statut, le manteau et le chapeau. Et donc vous avez encore cette Hermès des chemins, hein, et de l'autre côté du vase, vous avez un hoplite. Vous avez des contextes domestiques, vous avez ici donc ce cratère à colonnes aussi, vous avez une femme avec un canoun, donc un panier d'offrande, qui est face à cette Hermès. Et de l'autre côté, vous l'avez dans toute sa splendeur isolée. C'est aussi un objet, je vous disais, il y a une grande familiarité, c'est aussi un objet de plaisanterie. Et vous avez ici donc cette représentation avec un geste très, très familier de ce jeune homme avec un panier sacrificiel. Et puis là, vous avez cette scène drôlatique avec cet oiseau perché qui embrasse le pilier hermaïque. Donc on voit bien que l'Hermès est quelque chose de très familier. Et puis vous avez aussi toute une série de vases où la mise en scène inclut un autel. Inclut un autel, ici en l'occurrence aussi un pilier et des pinakes, donc des petits tableaux. Donc là, on est vraiment en contexte de sanctuaire, mais modeste, hein, comme c'est le cas ici. Et c'est évidemment le motif de l'autel qui m'intéresse, puisqu'il suggère le sacrifice, même quand le sacrifice n'est pas activé dans l'image. Toutefois, il faut évidemment être très attentif quand on analyse ce type de document. À ce qu'on pourrait appeler l'illusion référentielle. Et c'est quelque chose que le regretté François Lissarag, qui est l'auteur du dessin qui reproduit cette image du pilier à l'autel, c'est ce qu'il rappelait très souvent, c'est-à-dire que les images informent avant tout sur l'imaginaire collectif de la société qui les produit. En d'autres termes, la combinaison pilier-autel avec ou sans sacrifice, est un assemblage d'éléments signifiants qui forment une construction culturelle dont il est nécessaire de comprendre les ressorts au-delà de cet effet de réel que l'image semble induire. Et donc c'est cet exercice, si vous voulez, de mise à distance qu'il faut toujours activer quand on travaille sur l'iconographie vasculaire. Et donc la combinaison pilier-autel, comme ici, voir le pilier, oui, et voilà encore d'autres exemples, hein. Vous avez des scènes sacrificielles avec un pilier, là aussi, vous avez l'autel, l'offrande, là vous avez le rôtissage des viscères qui se passe devant ce pilier hermaïque, et puis là vous avez la combinaison pilier-autel hors de toute scène sacrificielle. Vous avez aussi ces piliers isolés sur un socle, hein, qui sont aussi relativement fréquents, cette combinaison, disais-je, pilier-autel, ne renvoie pas, ou celle-ci, ne renvoie pas à tel ou tel sanctuaire voué au dieu Hermès, hein, ce qui serait l'illusion référentielle, pas plus que les sacrifices ou les prières dirigées vers le pilier hermaïque ne peuvent être simplement identifiés comme un rituel à Hermès. Ce type d'explication, en effet, si on pousse l'illusion référentielle jusqu'au bout, le référent jusqu'à son point limite, si c'est effectivement un rapport à des cultes d'Hermès dans la cité, ça voudrait dire que c'est Hermès qu'on honorait le plus dans la cité, puisqu'on a des dizaines de vases qui représentent ceci. Donc on voit bien que, de ce point de vue-là, le renvoi strict et non discriminé à un effet, enfin, à une situation réelle ne fonctionne pas. La lecture littérale, si vous voulez, ne fonctionne pas. C'est ce que rappelait dans sa thèse publiée dans ce livre « Montrer l'invisible », Hélène Collard, qui écrivait, page 70, en représentant un Hermès, donc sur les vases, le but n'est pas seulement de rendre Hermès présent, hein, c'est ça aussi. Les peintres ont manifestement voulu dire autre chose, et c'est cette autre chose qu'il faut essayer d'élucider pour arriver au terme de ce détour à la question de l'attentat de 415. Donc, si les images sur les vases sont bien l'expression d'un imaginaire collectif, cet imaginaire, quand il s'agit de la figure d'Hermès, active, on l'a vu, les notions de passage, d'intermédiation, de communication. Le pilier hermaïque, si volontiers représenté en image, exprime en fait la possibilité d'une interaction. Il est le signe qu'une... Attendez, je vais revenir là. Il est le signe qu'une relation peut se nouer entre les hommes et les dieux, quels que soient finalement les dieux destinataires. Alors, bien entendu, le pilier est aussi une présentification d'Hermès, mais il évoque surtout son mode d'action, qui est la mise en contact. C'est ça que signifie, si vous voulez, le signe Hermès, c'est la possibilité d'une mise en contact. Comme dans le cas, finalement, de deux calions à qui Zeus envoie Hermès pour savoir ce qu'il veut, pour l'autoriser, en l'autorisant à demander ce qu'il veut. Je vous rappelle aussi une scène que j'ai vue avec vous l'année dernière. Nous sommes donc au champ 18 de l'Iliade. Achille a perdu ses armes sur le champ de bataille. Vous vous souviendrez que Héphaïstos forge de nouvelles armes, dont un bouclier extraordinaire, avec une représentation de la cité en paix et de la cité en guerre. Et dans la cité en paix, des héros à l'écart sous un chêne s'affairaient pour un festin. Ils s'occupaient d'un grand bœuf qu'ils avaient immolé ou qu'ils avaient sacrifié, dans ce cas-là ça marche aussi. Les femmes, pour le repas des ouvriers, versaient beaucoup de farine blanche. Pourquoi est-ce que je reprends cela? Parce que nous sommes en cadre sacrificiel. Et qui s'occupe du sacrifice, en l'occurrence, dans cette scène? Ce sont les héros. Or, les héros, dans ce sens, ce sont les messagers, et leur dieu protecteur, c'est Hermès. Et donc, vous avez, dans cette toute petite scène minuscule, des indications extrêmement intéressantes sur, précisément, le statut de sacrificateur des héros. Et donc, le patronage divin d'Hermès sur ces figures sacrificatrices est évidemment à prendre en compte, d'autant que nous avons vu l'année dernière, en étudiant l'hymne homérique à Hermès, que les accointances du dieu lui-même avec le sacrifice étaient extrêmement importantes. Dès lors, et j'y reviens, quand les conjurés de 415 s'attaquent aux piliers hermaïques dispersés dans toute la cité, enfin, dans tout le centre-ville, quelle signification cet événement a-t-il pu avoir pour les Athéniens qui l'ont vécu? Dans le passage de Thucydide, que je vous remets sous les yeux, l'historien en fait un signe de mauvais augure pour l'expédition de Sicile, tout en évoquant aussi le projet d'un renversement de la démocratie. Le pouvoir du peuple était en effet associé par une frange de la population athénienne que la démocratie radicale rebutait. Donc ce pouvoir du peuple était associé au jusqu'au boutisme de la guerre, au refus d'une paix de compromis et à un impérialisme brutal. Je vous rappelle que l'année précédant la mutilation des piliers hermaïques avait eu lieu ce terrible épisode de la mise à mort de toute la population masculine sur l'île de Mélos par les Athéniens parce que les Méliens refusaient de se soumettre. Et femmes et enfants avaient été envoyés en esclavage. Donc, et les discours que Thucydide met dans la bouche des protagonistes, les Athéniens et les Méliens, sont une terrible mise en scène de la loi du plus fort. Et je vous invite à relire ces discours dont les échos résonnent sinistrement dans notre actualité. Mais bon, je reviens à Athènes, dans la cité d'Athènes. Donc, après la mutilation, les tensions entre les factions s'exacerbent, entre partisans de la démocratie radicale, partisans d'une oligarchie de possédants. Dès lors, quand Thucydide évoque l'interprétation qui est donnée à la mutilation des Hermès en termes de conjuration contre la démocratie, il vise évidemment ce type d'acte, la solidarité que les tenants des forces conservatrices auraient exprimé en perpétrant de façon concertée une action pendable, hein, une sorte d'allégeance dans le crime, si vous voulez, hein, qui est bien connue des conjurations. Mais ça n'explique pas pourquoi ils se sont attaqués aux piliers hermaïques de la cité. Alors, leur nombre, les piliers, leur accessibilité, je vous ai dit, on en avait partout, sont sans doute une première réponse, mais elle est nettement insuffisante. En revanche, si l'on tente un instant l'exercice auquel je vous invite, qui consiste à se mettre à la place d'un Athénien du 5e siècle avant notre ère, en mobilisant la compétence culturelle que j'ai tenté de reconstituer devant vous autour de la figure d'Hermès. Il me semble qu'alors le geste iconoclaste acquiert une autre dimension. Et de ce point de vue, et j'en profite pour vous donner un peu de bibliographie, vous la verrez sur le support qui sera mis en ligne, je salue de ce point de vue-là l'intuition de William Furley qui avait déjà été dans le sens que je vous propose. En effet, il s'agit ni plus ni moins de s'attaquer à l'un des symboles les plus familiers pour les Athéniens de la relation qui se noue avec leur dieu. Le détail évidemment de l'intention nous échappe. Ici, c'est un exercice mental auquel je vous convie. Mais l'effet global manifestement attendu est de placer la cité sous le coup d'une terrible impiété à l'égard d'Hermès, ça c'est clair, tout en portant atteinte à la bonne communication sacrificielle avec les dieux dans leur ensemble par l'intermédiaire de celui qui la symbolise le mieux. Donc c'est une entreprise de déstabilisation profonde au sein de cette cité d'Athènes en 415. Et j'ajouterai un point, en effet, pour soutenir cet exercice mental, au Dionysie de 414, donc la grande fête de Dionysos, à l'occasion de laquelle on présentait les tragédies et les comédies, donc en mars, c'est-à-dire quelques mois après, en mars 414, donc quelques mois après l'attentat contre les piliers hermaïques, Aristophane fait jouer une comédie qui s'appelle Les Oiseaux. Et l'intrigue est simple. Deux citoyens quittent leur cité, où la corruption le dispute à la guerre, et ils décident d'aller fonder une cité parmi les oiseaux. Alors la fondation de cette cité, qui se place donc entre ciel et terre, va conduire à interrompre la communication entre les dieux et les hommes. Ces derniers, donc les dieux traditionnels, se trouvent dès lors dans une situation compliquée. C'est sur le mode comique la même intrigue que dans l'hymne homérique à Déméter, quand la déesse arrête de faire pousser les céréales, que les hommes sont affamés, que les sacrifices ne peuvent plus être offerts aux dieux et que bon, les dieux se trouvent dans une situation compliquée. Aristophane joue sur ce thème dans la comédie des oiseaux. Alors, Hermès n'est pas un des protagonistes principaux de l'intrigue dans Les Oiseaux, mais une fois, il est mentionné. Il est mentionné, et en fait c'est le cœur des oiseaux qui dit aux deux Athéniens, mais comment est-ce qu'on va recevoir les offrandes, puisque les humains ne vont jamais nous prendre pour des dieux, on a des ailes. Et Pisthéteros, qui est un des deux protagonistes de la sécession et de la fondation de la cité dans les airs, tu extravagues par Zeus, Hermès, tout dieu qu'il est, vole et porte des ailes, ainsi qu'un grand nombre d'autres dieux. Et d'abord Niké, donc la victoire, prend son vol avec des ailes d'or, et par Zeus, Eros en fait autant. Et Homère prétend qu'Iris ressemble à une timide colombe. Et Zeus tonnant, ne lance-t-il pas sur nous la foudre ailée? Donc on voit bien le propos, il s'agit de montrer que, mais non, les hommes sont habitués à avoir des dieux avec des ailes. Mais en fait, quand on regarde l'iconographie contemporaine, on s'aperçoit qu'effectivement, Niké, Iris et Eros portent des ailes, régulièrement dans l'iconographie, pas toujours, mais régulièrement. Hermès, je vous avoue que je n'en ai pas trouvé. J'ai peut-être mal cherché, mais en tout cas, c'est beaucoup moins massif que les trois autres. C'est en fait, je pense, une manière de souligner par l'ajout d'un attribut inusité, évidemment, le rôle de passeur d'Hermès entre les sphères du cosmos dans une comédie qui met en scène la rupture des relations sacrificielles entre les hommes et les dieux. Aristophane, je pose la question, aurait-il fait indirectement référence à l'affaire des Hermocopides, c'est ça, comme ça qu'on appelle les acteurs de cette nuit terrible, donc l'affaire des Hermocopides, lors des Dionysies, juste après l'affaire en question. Il faut bien dire que la critique de la corruption des démagogues dans la cité, l'état de guerre endémique qui sont derrière les propos d'Aristophane dans Les Oiseaux, relaie, je dirais, les intentions supposées de ceux qui ont attenté aux Hermès. Et donc, je fais l'hypothèse que c'est la cité sacrifiante d'Athènes qui pourrait bien avoir été visée par l'attaque concertée. Et vraiment l'attaque concertée des fondements relationnels de son système polythéiste, en visant conjoncturellement une entrave à l'expédition de Sicile, ça c'est clair, il y avait une volonté de jeter l'opprobre à l'avance sur cette expédition dont beaucoup ne voulaient pas, mais plus structurellement en mettant en cause le régime politique lui-même et, vous le savez, on l'a vu la semaine dernière, les hiérats sont indispensable dans cette prise dans cette configuration de la vie politique. Alors, avec la comédie d'Aristophane, nous sommes en 414, mais je vous ai annoncé 403, donc il faut que j'avance, sinon je vais encore être en retard comme la semaine dernière. Sans entrer dans le détail de ce qui suivit le scandale des Hermocopides, je soulignerai que à partir de ce moment-là, les camps démocratiques et oligarchiques ont durci leurs positions respectives à la suite de différents désastres. Je vous l'ai dit, l'expédition de Sicile a été un désastre. Ensuite, les Spartiates ont occupé le territoire d'Athènes, rendant les choses extrêmement compliquées pour les Athéniens. Il y a aussi les révoltes des cités qui faisaient partie de l'Empire, le dit Empire athénien. Donc ça va très mal. Et en 411, un coup d'État renverse effectivement les institutions démocratiques. Donc ce que Thucydide avait évoqué pour 415 arrive en 411. Mais quelques mois plus tard, ça ne va pas durer, je vous ai dit, c'est une période où ça change beaucoup et souvent. Quelques mois plus tard, en 411 toujours, 411-410, le régime antérieur est rétabli jusqu'à la débâcle finale d'Athènes et la dislocation de son empire maritime en 404. Et à ce moment-là, donc les Spartiates sont vainqueurs de cette longue guerre du Péloponnèse, et les oligarques en 404 prennent alors leur revanche avec l'aide des Spartiates et installent ce qu'on appelle les 30 tyrans à la tête d'Athènes. Et ces dix 30 tyrans vont faire régner un climat de terreur qui va durer une bonne année. Mais dès la fin de l'année, les démocrates rassemblent une armée, ils s'emparent d'une forteresse au nord de l'Attique et prennent ensuite le contrôle du port du Pirée. Il y a plusieurs victoires, des gens du Pirée qui sont les démocrates sur les gens de la ville qui sont les oligarques. Et finalement, on assiste au rétablissement du régime des ancêtres, c'est-à-dire la démocratie telle qu'elle a été mise en place par, notamment par Clisthène, avec le Conseil des 500 et l'Assemblée, c'est-à-dire le Conseil et le peuple, qui sont les instances principales du pouvoir à Athènes. Enfin, et ailleurs aussi. En 403, une amnistie à l'intérieur de la cité va tenter de recoudre le tissu déchiré de cette cité. On voit bien une fracture profonde au sein de la cité d'Athènes, et des mesures politiques vont être prises en ce sens pour réparer, en quelque sorte. Alors, donc voilà un bref résumé de ce qui se passe entre 415 et 403. Si j'ai saisi d'un seul tenant cette période, donc le coup d'État, enfin les piliers, le coup d'État de 411, celui de 404, la restauration de 403, c'est qu'il me paraît intéressant de les envisager ensemble. En effet, que décide à chaque fois la cité quand la démocratie est remise sur les rails après les coups oligarchiques ? Eh bien, elle décide de s'occuper de ses lois. Mais pas n'importe quelle loi. On va le voir, et c'est le deuxième volet qui sera beaucoup plus court, soyez rassurés. Le deuxième dossier de cette leçon qui porte sur la question normative, et vous allez comprendre tout de suite pourquoi la question de la cité sacrifiante vient se loger aussi dans ce dossier. Donc, au sortir du coup d'État, je reviens un petit peu en arrière, au sortir du coup d'État oligarchique de 411, on assiste donc au rétablissement de la démocratie, et les démocrates, qui sont revenus au pouvoir, vont décider de s'attaquer à la refonte des lois de la cité et de les codifier. Jusque-là, on avait des lois qui remontaient à Dracon, qui remontaient à Solon, puis les décisions qui avaient été prises par ailleurs, mais tout ça n'était pas nécessairement écrit, inscrit, et puis là où c'était inscrit, ben c'était assez disparate au sein de la cité. Alors, la procédure qui est adoptée en 411 n'est pas totalement claire, mais en tout cas, on sait que des rédacteurs, des transcripteurs ont été désignés. Parmi eux, on identifie un certain Nicomachos. Et ces greffiers commencent donc leur travail en 410-409. On a trace de ce travail épigraphiquement parlant avec ce décret, donc qui date de 409-408, qui ordonne de faire graver la loi de Dracon sur les homicides et qui recommande de faire ériger la stèle sur laquelle on va recopier cette loi près du portique royal sur l'Agora. Et je vous montre, donc on a vu tout à l'heure l'autel des 12 dieux, le portique royal est ici, et donc les lois devaient être affichées à cet endroit. Mais ce travail qui devait prendre quelques mois était en fait colossal. La recollation, si vous voulez, de tous ces textes et toutes ces décisions du passé était un travail énorme. Et donc finalement, ça prend beaucoup de temps. Et quand en 404, la démocratie est renversée, le travail n'était pas fini. Mais il reprit en 403, donc après l'épisode des 30 tyrans, le travail reprend et se termine en 400-399. Et c'est alors que Nicomachos, et c'est notamment pour ça qu'on est bien renseigné sur ce qui se passe, Nicomachos, l'un des greffiers de l'opération, est traîné en justice, en fait. Alors, les motifs du procès ne sont pas totalement clairs, mais la motivation la plus crédible de l'accusation, dont un discours de l'orateur Lysias nous a gardé le souvenir, c'est qu'il n'y avait plus assez de budget disponible pour les sacrifices traditionnels, tellement Nicomachos avait fait transcrire des sacrifices de tous ordres. Vous voyez pourquoi la question m'intéresse, la question des lois. Il y a évidemment, quand on s'occupe des lois, la question du rapport entre les hommes eux-mêmes, mais aussi le rapport des hommes à leur dieu. Et donc c'est là que vient se nicher mon propos. Alors, Lysias rappelle qu'il s'agissait d'accomplir des sacrifices prescrits par les curbeis, ce sont les supports que Solon aurait utilisés pour ses lois. Et donc c'est la cité qui a décidé ça. Il faut que les sacrifices soient vraiment accompli de façon correcte en reprenant les traditions des ancêtres. On retrouve les mots-clés que nous avons vus la semaine dernière. Et donc, la refonte des lois, qui s'est donc déroulée en deux séquences, 410-404 et puis 403-399, incluait ce qu'on appelle habituellement le calendrier des cultes, le calendrier sacrificiel de la cité. Donc, encore une fois, les lois concernent autant les relations des hommes entre eux que des hommes avec leur Dieu. Et on a pu mettre au jour certaines parties de ce fameux calendrier. Alors, vous trouverez dans la littérature une référence au calendrier de Nicomachos. C'est un peu trop dire. Il était un des transcripteurs, mais comme on a conservé le texte de la plaidoirie à son procès, évidemment, c'est lui qui prend toute la lumière. Mais bon, ce n'était pas le calendrier de Nicomachos. Et donc, on a mis au jour des stèles, des morceaux de stèles, qui ont été étudiés et remis ensemble par Stephen Lambert, et vous avez ici une série de références si ce texte vous intéresse, mais je n'entrerai pas dans le détail. Le seul point qu'il faut savoir, c'est que c'est exactement le même type de document que celui que nous avons vu pour Erkia la semaine dernière, c'est-à-dire la mention de la date, l'occasion, la divinité destinataire, l'animal qu'on va lui offrir et le coût. Donc, on est exactement dans ce même type de considération. Et donc, il faut, le but de tout ça, et voilà un exemple, donc c'était des stèles opistographes, donc c'est-à-dire inscrites de part et d'autre, probablement une partie qui avait été rédigée en 410, à partir de 410, et puis l'autre en 403, et c'est manifestement celle-là qui faisait foi. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais vous avez des chiffres, en fait. Ce sont les prix des sacrifices et des animaux. Donc la question économique est vraiment très importante. Et c'est elle, évidemment, qui était au cœur du procès de Nicomachos. Et vous voyez ici, celui qui plaide contre Nicomachos, qu'est-ce qu'il va dire ? Vous allez voir, on retrouve exactement les mots-clés de la semaine dernière. Nos ancêtres, en sacrifiant d'après les curbeis, donc les supports de Solon, nous ont transmis une Athènes plus grande et plus prospère qu'aucune cité grecque. Il est donc juste que nous sacrifions à leur mode. Donc, vous voyez, la tradition. Vraiment, qui pourrait montrer plus de piété que moi lorsque je demande que les sacrifices soient conformes tout ensemble à la tradition de nos ancêtres, à l'intérêt de la cité, aux décrets du peuple et aux ressources que fournissent les revenus publics ? Donc vous voyez, on dirait que, a priori, il a intégré les éléments que nous avons vus dans le traité de rhétorique. Donc, on a cette restauration du régime démocratique qui va mettre... qui va embrasser dans un même mouvement les hiera et les osia, les relations avec les dieux et les relations entre les hommes. Et donc on voit bien que ce qui a atteint la cité pendant toute cette période, et on peut même remonter plus haut, puisque Thucydide au livre 2 parle notamment de la dite peste d'Athènes qui a frappé au tout début de la guerre du Péloponnèse, et que dit-il ? Dans ce moment de destruction de tout ce qui faisait la cité, ni la crainte des dieux, ni la loi des hommes n'arrêtaient ceux qui s'adonnaient simplement aux plaisirs immédiats parce qu'il n'y avait plus de structure au sein même de la cité. Et donc, la codification des lois était une manière de renouer avec le beau et avec l'utile dans la cité en restaurant, en donnant toutes les garanties de cette bonne entente avec les dieux. Et donc, vous voyez pourquoi j'ai mis ces deux dossiers en parallèle. Alors, je conclus en revenant très brièvement sur le livre de Vincent Azoulay et Paulin Ismar. Ils ont donc inscrit, le sous-titre l'indique, leur réflexion dans une perspective chorale. Et pour soutenir en fait ce choix, ils sont partis d'un texte de Xénophon, un passage de Xénophon, que je voudrais lire avec vous, et puis je vous promets que c'est terminé. Il s'agit en fait du discours d'un certain Cléocritos, membre de la famille sacerdotale éleusinienne des Héraut, donc H-E-R-A-U-T, il est du côté démocrate et il va s'adresser aux oligarques qui ont été défaits dans une bataille en 403. Et que dit-il ? Concitoyens, pourquoi nous chassez-vous ? Pourquoi voulez-vous nous tuer ? Donc, il renvoie à ce qui s'est passé avant. De notre côté, nous ne vous avons jamais fait de mal. Nous avons pris part avec vous aux rituels, les hieras, les plus vénérables, aux sacrifices du Siaï et aux fêtes les plus belles. Nous avons ensemble formé des chœurs, voilà les chœurs, ensemble suivi l'école et ensemble porté les armes. Nous avons couru avec vous bien des dangers sur terre et sur mer, quand il s'agissait pour les uns et pour les autres d'assurer la sécurité et la liberté commune. Au nom des dieux de nos pères et de nos mères, très intéressant les dieux de nos mères, de nos relations de parenté, d'alliance et d'amitié, car tous ces liens unissent beaucoup d'entre nous, respectant et les dieux et les hommes, cessez de mal agir envers la patrie, n'obéissez plus aux 30, donc c'est les 30 tyrans dont j'ai parlé, les plus impies des hommes qui ont fait périr peu s'en faut, plus d'Athéniens en 8 mois que tous les Péloponnésiens en 10 années de guerre. Et donc l'histoire chorale élaborée par mes collègues a mis en exergue, hein, vous le voyez dans ce texte de Cléocritos, les chœurs qui ont été formés. Pour ma part, vous l'aurez compris, c'est le premier point qui m'intéresse, qui a nourri ma réflexion sur la cité sacrifiante, car c'est une clé de lecture dont ce texte atteste la pertinence. C'est la première chose qui est mise en évidence par Cléocritos. Et donc, je vous invite à poursuivre cette exploration sur la cité sacrifiante la semaine prochaine. Merci pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.